différence qu'il a en le rejetant.
And Jesus, as we see in contrast, and we're going to see this morning, in contrast to the Pharisees, has his father's heart.
Jésus a le cœur de son Père. Jésus voit au-delà de ce que nous voyons. Il voit au-delà des coquillages qui sont sur la plage. Jésus aussi protège les cyclistes qui sont devant ma voiture alors que je suis en retard pour venir à l'église. Et quand je m'approchais un petit peu trop des cyclistes, il y a ma fille qui m'a demandé si j'aimais ces cyclistes et j'ai été obligée de confesser que je ne les aimais pas à ce moment-là. On voit aussi dans Jésus la fidélité de Dieu. La fidélité comparée à l'hypocrisie de l'époque, la fausse foi de l'époque qui était si prévalente dans l'établissement religieux de son époque. Donc le verset étudié, c'est Luc, chapitre 14, de versets 1 à 3.
This wasn't an unconditional love event. You're being watched, you're being scrutinized. You know what that feels like. Well, imagine for Jesus. He's among the religious establishment. They're looking at him. They're seeking to find something of which they can entrap him.
Jésus est parmi les pharisiens et on peut supposer que ce n'était pas un repas d'amitié. C'était un repas où il était scruté, il était observé.
Which of you, if you have a son or an ox that has fallen into a well on a Sabbath, may not immediately pull him out? Heavenly Father, thank you for your word. But thank you that it is your word that will never return void. So, Father, I pray that you would use this crooked stick to preach your strength for me. But I thank you that you have a way of meeting us today where we are and moving us to where you want us to be. But we're all in different places. I pray, Father, that you would be glorified in us. And Lord, that you would take our relationship to you. Lord God, that you would be on the front of our lives. Father God, that you would be we found that the day of the week serves as really the backdrop for this teaching of Jesus. This day of the week is actually going to serve as the backdrop for Jesus' teaching.
Ce jour particulier du sabbat va servir de colonne vertébrale à notre petit enseignement ici et à l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce qu'on connaît du sabbat? Genèse, chapitre 2, verset 3, dit « Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Et il y a aussi l'Exode, chapitre 20, verset 8 à 10, qui dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Par en 6 jours, le Seigneur a fait le paradis et la terre, et il s'est reposé le 7e jour. Donc, le Seigneur a béni le sabbat et l'a mis à part. Quand j'étais avec ma famille, le dimanche, on allait dans une petite cafétéria près de l'église.
And I remember we went past my friend's house, and my father didn't know that I was friends with this particular boy, and he was out
mowing grass. Et on passait dans la maison d'un copain à moi, qui voyait que le père de mon copain faisait passer la tondeuse dans son jardin. Et bien sûr, je lui ai pas dit que j'étais copain avec son fils. Mais bon, le jour du sabbat, enfin le dimanche,
in me that was there with my dad. But I think the good part of that is that my dad instilled in me that Sunday was the
Le dimanche était différent, c'est ce que mon père m'a appris. Bien sûr, Jésus va nous montrer là que le jour du sabbat, comme étant le jour du repos obligatoire, peut être pris de façon légalistique, mais il l'a mis à part ce jour-là. Dieu n'avait pas besoin de se reposer. Dieu n'est pas fatigué, comme nous le faisons, mais il a mis dans sa création un jour de repos et de restauration pour nous. Si nous travaillons 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, cela veut dire que nous sommes plus puissants que Dieu, et donc nous devons nous reposer, et il nous ordonne de mettre ce jour à part toutes les semaines pour se consacrer à lui. Il nous ordonne de nous reposer. Nous avons besoin d'un jour pour être restaurés physiquement et spirituellement. Et là, maintenant, nous avons 2 jours. Nous avons samedi et dimanche. Moi, j'ai des amis qui sont des fous de travail. Et ils se vantent de travailler 7 jours par semaine. Bien sûr, avec gentillesse et avec fermeté, j'ai dit, vous avez besoin de ce jour-là pour une raison. Donc là, Jésus, ce jour-là du sabbat, il est en train de dîner avec les pharisiens. Et là, il y a un homme qui était peut-être pas invité. Ce n'est pas dit, mais probable qu'il ne soit pas invité. Jésus est observé. Il a peut-être été invité pour voir s'il y avait des incompréhensions dans sa vie et dans sa pratique, ou s'il y avait des choses qui n'étaient pas consistantes. Et bien sûr, c'est intéressant de voir que ce dîner, là, il a été préparé le jour du sabbat, donc on ne pose même pas la question de savoir qui a préparé le repas. Il y a eu une préparation du repas, il y a eu une mise de table. Donc là, les pharisiens ne pensent pas qu'il y a du travail. C'est un repas le jour du sabbat, donc il y a eu forcément du travail. Là, il y a une question que Jésus pose. Il demande ça aux experts de la loi. Est-ce que c'est légal de guérir le jour du sabbat ou pas? Jésus pose une question importante. Est-ce que c'est bien de faire du bien le jour du sabbat?
Il n'y a
pas de loi juive qui interdise le soin de guérir le sabbat. Ces invités savaient connaissait la loi. Et il connaissait ce fait-là, qu'il n'y avait pas de loi qui interdisait de guérir le jour du sabbat. Ils sont restés silencieux. Son vrai but, c'est de guérir le malade. Jésus a pris toutes les occasions de faire des sermons, de professer, d'enseigner. Que ce soit au puits en Samarie, que ce soit au mariage à Cana, il a toujours donné un exemple. Il a toujours enseigné, donc c'est un exemple qu'il est important de suivre. Quelle que soit l'activité que Jésus avait, il montrait toujours Dieu, il enseignait toujours pour la gloire de Dieu, et il montrait toujours que tout ce qu'on faisait, c'était pour la gloire de Dieu. Il faut utiliser toutes les occasions que l'on a dans notre vie quotidienne pour partager, pour témoigner. Quand on est dans une autre culture, hein, le début, on trouve ça tout bien, et puis après, on commence à voir un petit peu les défauts. Et bon, il faut quand même rester consistant et ne pas perdre une seule occasion de partager la vérité. Alors, en revenant donc au repas que Jésus prenait avec les pharisiens, il y a cet homme qui s'amène, qui n'est pas invité, et en fait, la condition de cet homme, c'est qu'il a des œdèmes. C'est une condition qui posait des C'est une condition qui est très dangereuse, hein, parce que c'est quelque chose qui fait gonfler le corps. Il y a du fluide qui s'accumule dans le corps, et c'est surtout les jambes et les chevilles qui gonflent. Donc c'est très dangereux, et ça appelle de l'aide médicale. Et c'était considéré comme n'étant pas guérissable dans l'époque de Jésus. Donc Luc 11, verset 37. Jésus dit les malheurs aux pharisiens. L'évangile de Marc. Jésus, à un moment donné, avertit ses disciples qu'ils doivent faire attention et se méfier de la levure. La levure fait gonfler les choses. La levure a un impact. Jésus dit qu'il faut être faire attention à la motivation. Ce que les pharisiens sont en train de construire à l'époque de Jésus est différent de ce que Jésus et les disciples vont construire. Et donc, dans le l'évangile de Luc, comme dans l'évangile de Marc, il y a ces malheurs aux pharisiens, cet avertissement. Étant ce verset 11 dans Luc, hein, dans ce chapitre 11 de Luc, il dit que les pharisiens ont une coupe qui est belle à l'extérieur et qui est lavée à l'extérieur, mais qui est remplie de liquide imbuvable et empoisonné.
Jesus Christ speaking directly to the religious elite of his day.
Jésus, là, il n'a pas peur de parler à l'élite religieuse de son époque en disant des choses qui étaient très dures. Il disait, bon, bah, sur l'extérieur, vous êtes peut-être bien, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de poison. Dans ce chapitre 11, là où il parle des pharisiens, on dit « Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous ». Il aborde plein d'aspects de la vie et de la pratique des pharisiens, et qui faisait que ces pratiques et ces philosophies-là allaient apporter la colère de Dieu s'ils ne changeaient pas. Donc il les avertissait en disant « Malheur à vous si ».
Because you are like unmarked graves, which men walk over without knowing.
Vous allez devenir des tombes sans nom que les hommes piétineront.
You experts in the law, woe to you, because you load people down with burdens they can hardly carry.
Il leur reprochait aussi de donner des fardeaux aux hommes qu'ils n'étaient pas capables de porter. Donc il n'a jamais mâché ses mots quand il parlait aux leaders religieux. Là, il parle, on se repart du groupe religieux de son époque qui était important. Donc là, il est au milieu de ce repas avec les parisiens qui lui sont hostiles et qui l'observent.
Et
lors de ce repas, Jésus soigne cet homme qui est très malade, et ce miracle-là constitue le squelette de l'enseignement de Jésus et de l'hypocrisie des pharisiens. Ce miracle-là, lors de ce repas, révèle tout ce qui est différent entre Jésus et les pharisiens. Donc là, on voit un tableau qui fait la différence entre les deux et la comparaison entre les deux. Jésus veut soigner. Les pharisiens disent qu'il faut laisser l'homme malade être malade, qu'on ne veut pas le soigner au jour du sabbat. On voit que Jésus obéissait aux ordres de Dieu, alors que les pharisiens se tenaient aux traditions des hommes. Jésus essaye de promouvoir une relation avec Dieu, alors que les pharisiens essayent simplement de promouvoir une religion. Donc on voit bien l'authenticité de Jésus et l'hypocrisie des pharisiens. Hein, et puis le fait que les pharisiens sont seulement en prière avec leurs lèvres et pas avec leur cœur. Et dans Marc, deuxième chapitre, hein, verset 27-28, on voit que le sabbat a été fait pour les gens et pas les gens pour le sabbat. Le sabbat a été créé pour vous, pour que vous vous reposiez, pour vous concentrer, pour contempler. Et si on arrête cell phone, le téléphone, si on arrête Facebook, si on arrête l'ordinateur, et quand on lit l'Évangile et qu'on écoute le Seigneur et qu'on prie et qu'on rentre dans ce moment d'intimité avec le Seigneur. Essayez. Ceux qui préparent le sermon, oui, qui prêchent, sont vraiment bénis parce que nous devons nous arrêter pendant la semaine et nous devons réfléchir et nous devons essayer de comprendre. Et donc nous passons du temps en relation, en silence avec Dieu, en prière concentrée. Et dans ces moments-là, vous vous sentez vraiment invincible, pas parce que vous êtes fort vous-même, mais parce que vous êtes dans cette relation de protection avec Dieu. Et c'est Dieu qui vous rend invincible. Et on peut contempler la bonté de Dieu. Et on a toute cette journée qui est mise de côté pour le Seigneur. Vous pouvez bien sûr faire la sienne, essayer de restaurer sa force pour le restant de la semaine. Mais ça, c'est un jour qui est à part pour Dieu. Le sabbat a été fait pour les gens, pas les gens pour le sabbat. C'est pour cette raison que le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat, le maître du sabbat. Le sabbat, c'est un jour de repos. C'est celui qui nous permet d'avoir la paix avec Dieu. Il va y avoir un sabbat qui va continuer au-delà d'une journée. Il va y avoir du travail au paradis. On va utiliser tous les talents que Dieu nous a donnés dans une capacité encore plus grande que celle que nous avons eue sur Terre. On ne va pas être sur un petit nuage en train de gratter la harpe. Dieu sait exactement ce qu'on va faire. On ne sera pas fatigué parce qu'on n'aura pas de corps. Mais aujourd'hui, nous avons besoin du sabbat. Donc, verset fort, hein, le 4, quand Jésus pose la question de savoir si c'est mauvais de se guérir le jour du sabbat, la réponse c'est le silence. C'est une désapprobation silencieuse ou un manque de foi silencieux.
How many times have you changed the course of what you were planning on doing because you feared what someone else thought?
Il y a beaucoup d'occasions où nous changeons notre course, nos actions, parce qu'on a peur de l'appréciation des autres, la peur de l'opinion des autres. Et même s'ils sont silencieux, même s'ils sont complètement opposés, hein, vraiment de façon implicite et explicite à cette question et à cette action que ça implique, il ne fait pas attention. Là, il est sous la scrutine, il est sous l'observation de ces pharisiens qui sont pas d'accord avec lui. Et il y en a certains qui vont être chrétiens plus tard, mais en ce moment, à ce moment-là, il est complètement seul et il prend des actions qui n'appellent pas l'approbation des autres. Donc il est tout seul et il ne se laisse pas arrêter par la désapprobation des autres. Et celui qui aurait perdu ce jour-là, c'est l'homme qui était malade. La prochaine fois que nous sommes dans une situation où Dieu nous demande d'intervenir et d'agir, et que nous sommes freinés par la désapprobation des autres, et bien pensez à ce moment-là où Jésus, lui, a fait fi de la désapprobation des autres pour soigner cet homme, et ça a fait toute la différence à cet homme. Ce sermon-là, ce n'est pas un enseignement que je fais pour vous, c'est aussi un enseignement que je fais pour moi. Je suis ici pour un petit bout de temps, pas très longtemps, donc je vais dans tous les magasins que je vais et puis je vais essayer de parler, de partager ma foi, même si les gens me prennent pour un fou. Il y a des fois où je perds des occasions de partager ma foi parce que je suis attentif à l'environnement et je sens que les gens ne sont pas en approbation, donc je laisse passer des occasions. Et il ne faut pas, comme Jésus, laisser ses émotions prendre le dessus. Jésus, lui, n'a pas laissé ça arriver. Il a guéri cet homme et il ne s'est pas préoccupé donc de l'environnement. Et nous devons faire comme Jésus. Ce n'est pas les autres qui doivent déterminer ce qui est dans notre agenda et ce qui est dans notre action.
Cet homme
qui a été malade toute sa vie est guéri d'une maladie considérée incurable à l'époque. Donc il a dû être très heureux quand il est retourné dans sa famille et quand il a revu ses amis. C'est un homme nouveau. Et le pharisien était certainement fâché, mais bon, l'homme qui a été guéri devait être tout à fait content.
Think about the possible generational impact of people in this man's
Pensez à l'impact générationnel de cet homme au sein de sa famille. Et là, on parle dans ce texte des pharisiens de leur désapprobation. Et on parle du sabbat et de ce que le sabbat veut dire. Mais pour cet homme, tout a changé. Et il a dû en parler à sa sœur, à son frère, à ses parents, à son fils, à ses petits-fils. Il a parlé à tout le monde. Sa maladie incurable est partie parce que Jésus l'a soigné. L'impact de cette guérison sur sa famille, sur sa famille étendue, sur les générations à venir. Le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde. Hein. Il commence tout petit et ça grandit. La graine grandit nuit et jour. La prochaine fois que nous avons peur de témoigner, on doit penser à cette petite graine de moutarde.
Jesus, in verse 5, then he said to them, if you have a son or an ox,
pose la question de savoir qui d'entre eux ne sortirait pas un fils ou un bœuf du puits s'il était tombé dedans le jour du sabbat. Jésus leur donne encore une autre possibilité de montrer un peu de compassion. Silencieux. Et même en rendant la question plus personnelle, en parlant d'un fils ou d'un bœuf qui tombe dans le puits le jour du sabbat, est-ce que vous ne sortiriez pas? Mais ils ne pouvaient pas répondre à cela, ils sont restés silencieux. Ils étaient tellement aveugles à l'évidence, que quand le péché est sur le trône de votre vie, quand je fais une observation qui est évidente, et je dis, ah, il pleut aujourd'hui alors qu'il pleut dehors. Je dis, ah, c'est un jour merveilleux. Alors que le soleil brille, et là, ma fille me dit, merci, capitaine, évident. Jésus ne pouvait pas utiliser l'humour avec les pharisiens. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre ce qu'il était tellement évident. Bien sûr, il devrait dire merci, capitaine évident. Il est évident que si on a un fils qui tombe dans le puits, les pharisiens auraient été le chercher. Mais ils ne pouvaient pas répondre. Ils n'ont pas répondu. Donc ça révèle l'hypocrisie, ça les révèle leur aveuglement. Jésus était fidèle. Jésus est une vraie représentation de Dieu parce qu'il était et il est Dieu, alors que les pharisiens n'étaient que des hypocrites. En tant que chrétien, vous êtes un membre de le corps du Christ. Le corps du Christ n'est pas juste en France, c'est en Allemagne, en Hongrie, c'est partout dans le monde. Il y a des chrétiens partout. Aujourd'hui, il y a des gens qui se rencontrent tout le temps, toute la journée avec le décalage. Mais c'est aujourd'hui que tout le monde se rencontre.
Who calls upon the name of the Lord. And I don't know when that's going to be, before God wraps up and consummates human history. Although there was the first confession, and then what will be the last confession?
You know,
when people stand before the great white throne judgment, that every
time devant ce jugement, on sait que tous les genoux se plieront et toutes les têtes s'inclineront. Et là, si on n'est pas chrétien, ce sera trop tard. Ici, nous découvrons que nous sommes tous des membres du corps du Christ. Jésus a dit qu'il ferait, que les disciples feraient encore de plus grandes œuvres parce que Jésus va avec son Père, va chez son Père. L'Esprit Saint va vivre dans tous les corps des chrétiens, dans toutes les générations. On fera de plus grandes œuvres. Parce que nous aurons l'Esprit Saint en nous. Les chrétiens ont l'Esprit Saint en eux. Vous êtes un membre du corps du Christ. Le Christ vit en moi. Parce que quelqu'un a mort sur la croix pour moi. Nous existons pour Jésus. Tous les jours, quand vous vous réveillez, on a un agenda, bien sûr, on a un travail, on a des choses à faire. Mais au bout du compte, on ne nous appartient plus. Paul comprenait bien ça. Tout le monde. Nous devons tous être comme les apôtres. C'est le Christ qui vit à travers nous. C'est pas que Jésus est ce composant dans ma vie, c'est que Jésus est ma vie. C'est ça qui nous différencie les chrétiens des autres personnes. La théologie, elle est bien dans ma tête, mais elle est peut-être pas toujours bien dans ma vie. Et ça, ce décalage-là existe parce que je n'ai pas encore compris que j'ai été crucifié avec le Christ. C'est une chose quotidienne. Nous devons nous crucifier tous les jours pour Dieu. On doit prendre notre croix et suivre Jésus. Et nous devons crucifier notre nature humaine parce que nous ne pouvons pas suivre Jésus en abandonnant pas notre être charnel. Et nous ne pouvons pas laisser le péché coexister avec le Christ. C'est pour ça que tous les matins, nous devons nous rappeler de prendre notre croix et de suivre Jésus. Jésus veut faire, Dieu veut faire des choses significantes dans notre vie. Comment est-ce que Jésus peut nous utiliser dans notre vie quotidienne? Ça, c'est une chose que nous demandons à Dieu, une chose personnelle. Nous pouvons prier cela. Comment pouvez-vous m'utiliser aujourd'hui? Quel est l'agenda, mon Dieu? Quel est le programme de la journée, mon Dieu? Et souvent, on fait notre projet, notre programme, et après on demande à Dieu de le bénir. Alors que nous, on doit demander à Dieu de faire notre programme. Dans ce scénario-là où on demande à Dieu de faire notre programme, Dieu est souverain. Et tous les matins, on doit donner à Dieu une feuille blanche et on doit laisser Dieu remplir. Et si tout le monde faisait ça, il y aurait des changements significatifs. Les gens seraient de plus en plus évangélisés et nous aurions des actions vraiment significatives. Donc il faut demander à ce que Dieu agisse à travers votre vie et lui demander comment il peut agir à travers notre vie. Les choses qui me sont arrivées dans ma vie et qui étaient les plus excitantes, c'était quand j'ai vraiment écouté la volonté de Dieu et que je suis partie en mission en Russie et il n'y avait rien dans le milieu. Si vous pensez que votre vie chrétienne est ennuyeuse, hein, c'est parce que vous ne laissez pas Dieu vous utiliser et qu'il faut demander à Dieu d'accélérer un petit peu les missions qu'il vous donne. Si votre vie chrétienne Et tant mieux, c'est pas à cause de Jésus, c'est parce que c'est à cause du nom. Ne laissez pas les sceptiques et les opposants déterminer votre vie. Quand on était en Russie, et quand on préparait à partir pour la Russie en 1998, il y avait beaucoup de gens dans notre famille qui ne voulaient pas que nous partions. Mais on a expliqué que c'est Dieu qui nous a envoyés là-bas et que nous obéissions à la volonté de Dieu, que ce n'était pas notre volonté.
And so one of my really close relatives ended up sort of coming around to the idea, but the fear was that you're going to go to Russia and you're going to be kidnapped, right? Or you're never going to come back.
Mais les gens de ma famille avaient peur que j'aille en Russie et que je sois kidnappée et que je ne reviendrai pas. Il y avait un film là-dessus qui parlait de ça, que les Américains étaient kidnappés en Russie et donc ma mère non plus ne voulait pas que j'aille en Russie. Donc, il faut absolument que j'aille là-bas parce que c'est Dieu qui me demande et on va prier pour ça. Et c'est souvent la famille qui fait que on a soutenu. Une des choses qui est importante à faire avec notre famille, qui sont inquiets pour nous, on prie, on va doucement, on essaye de les convaincre, on ne tape pas du poing non plus sur la table, en essayant de les rallier à notre cause, on y va doucement, on essaye aussi de les rallier à notre cause. Jésus ne s'est pas levé, il n'a pas tapé du poing, il n'a pas dit que... Non, il a juste fait la guérison, il a posé deux questions, et il l'a fait, il n'a pas laissé leur esprit avoir une influence sur lui, ce qu'il avait décidé de faire. Il faut donc étudier les Écritures et les connaître bien pour que... on puisse appliquer des exemples qui sont dans la vie de notre vie. Jésus connaissait les Écritures et il a été capable, en connaissant tous les livres de la Bible, de poser des pièges et de déjouer les pièges des pharisiens. Il a pu voir à travers tous les pièges que les pharisiens posaient. Et c'est comme nous, quand on connaît bien les Écritures, on peut déjouer les questions pièges des autres. Et on peut toujours les guider et témoigner. Si vous retournez au Moyen-Âge, aujourd'hui, on est concentré sur l'amour de Dieu. Mais dans les temps médiévaux, se concentrer sur Jésus comme le juge qui allait venir et qui allait juger la terre. On a remplacé tout ça par l'amour de Dieu, mais l'amour, c'est aussi, avec la justice, c'est aussi une composante. Donc il faut lire les Écritures et comme ça on a une compréhension plus globale. C'est pour ça que dans le corps du Christ, il y a des prêcheurs, il y a des encourageurs, il y a des musiciens, il y a parce que ça donne un équilibre au corps. Imaginez qu'on ait un corps avec un énorme œil ou une énorme jambe. Donc Dieu donne au corps des parties différentes de façon à ce que nous puissions trouver un équilibre. Dieu a mis tout ce dont vous avez besoin ici. Vous n'avez pas besoin d'un grand évangéliste qui vient. Il vous a mis vous ici pour aller atteindre ces gens pour le Christ. Tout le monde est appelé à faire cette mission-là. En Maine, dans notre église, on fait venir des conférenciers, des gens qui sont très importants et qui viennent faire des conférences. Mais il y a aussi des conférences où nous avons les pasteurs locaux. Parce que l'Esprit Saint a mis exactement ce dont nous avons besoin. Là où nous en avons besoin. Il y a des oppositions à prévoir. Ça fait partie de la vie. On aime tous être aimés. Enfin bon, c'est l'opposition, c'est une partie de la vie. Hein. Ça fait partie de la vie. Jésus, il a eu l'opposition, mais il a toujours continué. Et on peut réaliser aussi que ceux qui étaient opposés à Jésus ont pu changer après. Et en leur enseignant et en leur donnant le bon exemple, ça servait d'exemple et d'enseignement qui compensait ceux qui ne respectaient pas la vérité. Même si c'est pas dans le moment, même si les gens n'étaient pas convaincus dans le moment, les miracles, les choses dont ils parlaient restaient, et c'est après que les choses changeaient, et donc on peut toujours s'attendre à de grandes choses de Dieu. Cet homme avait besoin d'être guéri, et ces hommes avaient besoin de vrais enseignements sur l'amour de Dieu et la compassion de Dieu. Donc sachez que Dieu vous utilise et vous utilisera. Père, nous savons que vous nous incluez dans votre travail. Nous savons que ce n'est pas pour nous, mais c'est pour vous. Je prie pour que tu parles à ces gens qui n'ont pas encore décidé. Je prie pour les croyants ici que tu nous emmènes au niveau supérieur, que nous soyons un petit peu plus intrépides et que nous partagions plus. Ne laisse pas nos circonstances dicter, laisse Jésus dicter ce que nous devons faire. Merci pour cette congrégation, merci pour cette équipe de leaders, merci pour ces évangiles. Je prie pour que tu utilises tous ces gens, sans regarder ce que les gens pensent. Amen.